Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Aujourd'hui, nous continuons notre étude sur la deuxième épître de Pierre. Stéphane est de retour parmi nous pour nous aider à comprendre cette lettre peu connue et nous dire pourquoi il est important de saisir son message. Stéphane, bonjour.
Merci Yann, bonjour à tous. Depuis quelques émissions, nous examinons l'enseignement de Pierre concernant les prophètes qui annoncent des mensonges. Nous avons appris que ces faux enseignants étaient motivés par l'amour de l'argent et l'amour du sexe, et qu'ils enseignaient des mensonges pour égarer les croyants et pour profiter des personnes vulnérables. Pierre, à juste titre, leur adresse des paroles dures. Il les avertit du jugement à venir, il les appelle à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, nous allons conclure nos discussions sur ce thème. Avant d'en dire plus, nous allons céder la parole à notre lectrice et écouter la lecture des versets 17 à 22 au chapitre 2.
Ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau, comme des nuages poussés par la tempête. Dieu leur a réservé une place dans les ténèbres les plus profondes. Avec leurs discours grandiloquents, mais creux, ils cherchent pour satisfaire leurs désirs tout humains à appâter par l'attrait de la sensualité ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivant dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si, après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste, plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme la vérité de ces proverbes. Le chien retourne à ce qu'il a vomi et la truie à peine lavée se vautre de nouveau dans la boue.
Merci. Je voudrais que nous étudions les derniers versets du texte lu. Ils donnent l'impression que les faux enseignants étaient, à un moment donné, de véritables chrétiens, mais qu'ils ont perdu leur salut du fait de leur libertinage et parce qu'ils ont encouragé les autres à les suivre sur de mauvaises voies. Je relis les versets en question. Si, après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde, par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste, plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Stéphane, d'autres versets dans le Nouveau Testament enseignent qu'il n'est pas possible de perdre son salut. Comment donc interpréter ce qu'affirme l'apôtre Pierre?
Merci, Yann. Vous posez une question importante. Et il va être difficile d'y répondre entièrement en une seule émission. Nous allons prendre pour point de départ ce que le Nouveau Testament enseigne. Ceux qui sont en Christ demeureront en Christ, car notre salut dépend de la grâce que nous recevons en Christ, et c'est Christ qui nous gardera jusqu'à la fin de notre cheminement terrestre. Voici quelques versets qui affirment cela. D'abord dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 27 à 29, nous lisons ceci. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Ensuite, la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, versets 31 à 35 et 38 à 39, nous apprend ceci. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. qui les condamnera? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ou ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici encore un dernier exemple parmi beaucoup d'autres versets possibles. Paul déclare dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, « J'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement, au jour de Jésus-Christ. »
Merci Stéphane. Nous ne pouvons pas étudier ces versets aujourd'hui en profondeur, mais nous remarquons que tous affirment que le véritable croyant vivra éternellement dans la présence de Dieu. Comment donc interpréter ce que déclare Pierre au sujet de ceux qui enseignent des mensonges?
Pierre affirme que ces personnes ont déjà reçu une certaine connaissance de Jésus-Christ et qu'elles ont la notion de ce qui est juste. Autrement dit, nous pouvons conclure que ces gens ne sont pas ignorants. Ils ont entendu le véritable message au sujet de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ils savent que Christ est Seigneur et Sauveur. Ils ont compris les vérités fondamentales au sujet de la foi et de la repentance. Ils sont sortis des ténèbres, ils ont quitté l'ignorance pour s'exposer à la lumière de la vérité. Cependant, leurs agissements tentent à démontrer qu'ils ont rejeté ce message reçu. Ces personnes ne se sont pas soumises à Christ. Elles ont préféré déformer la vérité pour élaborer à la place des mensonges polluants. Pierre nous fait comprendre qu'il aurait mieux valu pour ces gens de demeurer dans l'ignorance plutôt que d'agir ainsi. Pourquoi ? Parce que le châtiment réservé à ceux qui enseignent délibérément des mensonges et qui ont entendu la bonne nouvelle de Jésus est pire que le châtiment réservé à ceux qui commettent le mal et qui ignorent ce message.
Ainsi, il est possible de connaître la vérité sans laisser cette vérité changer notre cœur ou notre vie.
Oui, c'est exact, Ian. Mais ces faux enseignants sont allés plus loin encore. Comme je l'ai déjà expliqué, ils déformaient le sens du véritable message pour élaborer à la place des mensonges, pour justifier le mal et le libertinage, et pour égarer d'autres personnes mal affermies et vulnérables. C'est vraiment très grave. J'aimerais à présent interpréter ce verset étudié sous un autre angle.
Je vous en prie, quel est-il?
Vous souvenez-vous de la parabole du semeur que Jésus a racontée?
Oui, cette parabole nous parle d'un semeur qui lance des graines un peu partout. Ces graines tombent dans des sols différents. Certaines graines commencent à pousser, mais meurent rapidement sans produire de fruits, soit à cause de la sécheresse, soit à cause des oiseaux, soit à cause des mauvaises herbes. D'autres graines tombent dans un sol meilleur et poussent pour produire une bonne récolte.
Oui, et Jésus commente cette parabole. Il déclare que certaines personnes semblent bien commencer dans la foi, elles accueillent le message favorablement, mais par la suite, elles ne produisent pas de fruits. Alors il est possible que les faux enseignants aient en apparence, à un moment donné, bien accueilli le message de Jésus. Toutefois, si par la suite ces personnes ont produit de très mauvais fruits, cela tend à prouver que leur soi-disant foi n'était pas authentique ni véritable.
Merci Stéphane de nous avoir ainsi éclairé.
Et je voudrais à présent apporter quelques précisions importantes.
Je vous en prie, allez-y.
Un pasteur peut tomber dans l'erreur et commencer à enseigner des erreurs. Toutefois, il ne faut pas forcément en conclure qu'il est dans le même cas de figure que ces enseignants de mensonges dont Pierre parle. Un pasteur peut aussi céder à la tentation et pécher gravement. Mais une fois de plus, il peut ne pas forcément faire partie de la catégorie de personnes que Pierre dénonce.
D'accord. Que voulez-vous dire? Comment faire la différence entre ces cas que vous venez de citer et les faux prédicateurs dont parle Pierre?
Eh bien, un vrai chrétien qui tombe dans le péché finira toujours par se repentir de lui-même, ou lorsque l'on cherchera à le corriger. La repentance sincère est le signe d'une foi authentique. L'humilité d'accepter la correction, d'admettre ses torts et de vouloir mieux faire sont également les signes d'une vraie foi. Les propos de Pierre visent plutôt ceux qui s'obstinent à commettre le mal délibérément et qui enseignent des mensonges, sans remords, tout en méprisant toute tentative de correction. Un pasteur qui enseigne des erreurs peut le faire par ignorance, parce qu'il n'a pas reçu une bonne éducation, ou parce qu'il n'a pas été bien formé. Cependant, s'il accepte la bonne doctrine lorsqu'on la lui explique, et s'il accepte une bonne formation lorsqu'on la lui propose, il fait preuve d'humilité, et sa foi est sincère. Une fois de plus, les propos de Pierre visent surtout les pasteurs qui s'obstinent à enseigner des mensonges, malgré les tentatives de correction. Ces personnes savent pertinemment que leur enseignement est en contradiction avec la Bible, mais elles refusent de changer.
Merci. Nous arrivons à la fin de notre série de discussions sur ce deuxième chapitre de 2 Pierre. Comment voulez-vous le conclure?
Les paroles que nous avons étudiées tout au long de ce chapitre sont assez sévères et dures. Elles peuvent choquer. On peut se demander où est l'amour dans tout ça. Alors, prenons l'exemple des parents. Il peut arriver qu'ils réprimandent sévèrement leurs enfants. Leurs paroles peuvent paraître dures, mais si elles avertissent leurs enfants des dangers réels, elles sont motivées par l'amour. Par exemple, si un parent voit son enfant s'approcher d'un feu, ou s'il le voit jouer près d'une route à grande circulation, il va le réprimander, parce que ce parent aime son enfant. Il ne veut pas qu'il se fasse brûler ou heurter par un véhicule. Il en est de même des paroles de ce chapitre que nous étudions depuis quelques émissions. Pierre aime l'Église, il aime les croyants, et il veut les avertir des dangers spirituels qui se répandent dans le monde. Chers amis, nous sommes motivés par ce même amour. Nous aimons l'Église et tout enfant de Dieu. Nous sommes très conscients qu'aujourd'hui encore, des fausses doctrines sont prêchées un peu partout dans le monde. Les mensonges spirituels y demeurent présents. Des faux prophètes et enseignants de mensonges cherchent à s'imposer. Ils ont le potentiel d'égarer beaucoup de personnes sur des voies qui les conduiront à la catastrophe morale et spirituelle. Notre désir est de vous prévenir de ces dangers et de vous aider à discerner le bien du mal. Nous sommes convaincus que la véritable joie et le bien-être se trouvent dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, telle qu'elle a été annoncée et expliquée par les apôtres dans le Nouveau Testament. Que Dieu vous donne la sagesse de reconnaître les vérités bibliques et de s'attacher fidèlement à Jésus-Christ.
Nous remercions Stéphane pour sa participation enrichissante tout au long de cette série qui se termine ainsi. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.